Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Gérard Wilpeau, président de la MNH, pour parler de, à bâton rompu de cette mutuelle des hospitaliers, c'est-à-dire de ceux qui nous, qui par tradition nous sauvent souvent la vie, ont un travail difficile et donc ont une mutuelle spécialisée pour les personnels de l'hôpital. Bonjour Monsieur Wilpeau.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter votre mutuelle ?
Oui, volontiers. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une mutuelle d'hospitaliers. Elle a été créée par des hospitaliers en 1960. Elle est gérée par des hospitaliers qui sont, tous les élus sont des bénévoles. Elle est aujourd'hui la première mutuelle du monde de la santé. Elle occupe les tout premiers rangs nationaux. Elle compte aujourd'hui, elle protège 1 100 000 et quelques personnes. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que ce sont des hospitaliers, donc ils sont au contact des personnes qui sont fragilisées par des situations de maladie ou autres. Il n'y a pas que dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite également. Bref, ils sont au service des autres. Et naturellement, nous nous devions, charger d'assurer leur protection et bien de l'assurer au meilleur niveau possible, bien entendu. Et donc la MNH a ce site particulier aussi. D'autres mutuelles le font, c'est pas tout à fait original, mais peut-être pas dans cette dimension et dans cette ampleur. C'est-à-dire que la MNH verse est une complémentaire santé, tout simplement. C'est son métier de base. Donc la MNH, c'est d'abord 650 millions de cotisations par an. Plus la prévoyance, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Donc c'est d'abord la santé, bien sûr, et puis c'est également des programmes que nous menons avec nos collègues, bien sûr, dans les établissements, de promotion de la santé, sur le stress, sur le tabagisme, sur les lombalgies, sur nous avons en quelque sorte la matière et nous mettons bien évidemment toutes ces compétences après au service de tous. Et il y a un volet, c'est aujourd'hui celui qui nous rassemble, c'est celui de l'action sociale. C'est 7 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à ces actions, avec auxquelles il faut ajouter encore 2 millions pour la prise en charge des cotisations pour les personnes qui disposent de faibles revenus ou qui sont en difficulté. Nous prenons en charge tout ou partie de leurs cotisations. Et donc, à côté de cette prise en charge, l'action sociale, ça couvre deux grands domaines. L'aide aux personnes en situation de handicap pour plus de 3 millions d'euros par an. Alors, à la fois, les personnes elles-mêmes, c'est plus de 12 000 personnes quand même. Leurs familles, les aidants, à la fois sous forme de prestations et d'aide et de conseils pour les accompagner dans leur vie. Quotidienne. Et l'autre volet, c'est celui d'aide exceptionnelle non remboursable, 3 millions d'euros aussi, pour toutes les personnes qui rencontrent des situations, qui sont confrontées à des circonstances sociales qui les mettent en difficulté. Alors ça peut être la maladie du conjoint, des enfants, ça peut être une situation de divorce, ça peut être aussi, et c'est là, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble, c'est les situations de surendettement que nous rencontrons de plus en plus fréquemment. Environ 80% des dossiers que nous recevons pour des demandes d'aide exceptionnelle, donc ce sont des aides non remboursables, on leur donne de l'argent, eh bien, relèvent de situations de surendettement. Alors, bon, j'anticipe un petit peu peut-être sur les questions que vous allez nous poser. On s'est dit aussi que on aide les gens, c'est bien, en leur donnant de l'argent. Parfois, on ne sait pas trop à quel créditeur il faut donner l'argent, à un office d'HLM, à un banquier, à l'électricité, le chauffage, à les frais de scolarité. Alors, nous nous sommes dit que nous pouvions aller, remonter en amont, en quelque sorte, pour agir sur le déclenchement de ces situations de surendettement et essayer d'agir de manière préventive. Alors ça, c'est une chose aussi que nous faisons avec beaucoup de partenaires. Et après, lorsque le surendettement est installé, malheureusement, les portes se ferment, et c'est pour ça que nous sommes heureux aujourd'hui d'être à vos côtés et de bénéficier de votre expérience, de vos services et de toutes les formes d'accompagnement, à la fois de conseils et d'accompagnement social, familial, voire financier, que vous êtes en mesure de proposer. Alors à toutes les familles, les hospitaliers, c'est une chose, merci pour eux, mais il ne faut pas oublier toutes les personnes qui sont confrontées à ces problèmes dans notre pays.
Je vous remercie, oui, je suis extrêmement touché lorsque, vous le savez, avec la MNH, vous avez sorti un guide avec la BFM, un guide qui est remarquable d'ailleurs hein, dans sa présentation, et je le reconnais. Puis j'ai l'occasion d'accompagner vos équipes sur le terrain lorsqu'il y a des grandes cérémonies de présentation personnes hospitalières du phénomène du surendettement, et c'est généralement très touchant. Je crois qu'on a des témoignages qui sont vraiment poignants. Hein. On a eu de très beaux moments ensemble, et je crois qu'on va continuer d'ailleurs cette année-ci, très prochainement et sans doute à l'avenir. Et je crois que ça, c'est une action très importante. Je crois beaucoup à la prévention. Et dans notre pays, malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas toujours été à la hauteur. Je suis désolé de devoir grogner à nouveau,
Monsieur le Président. Raison, je grogne comme vous.
quand on sait, d'ailleurs, on peut parler des mutuelles hein, qui ne sont pas toujours très soignées par le gouvernement. On met des charges complémentaires. Bien sûr, dans une société libérale, on attaque souvent, malheureusement, ce qui crée encore du lien et de la force dans un pays. Et vous pouvez dire quelque chose à ce sujet-là et puis lancer peut-être un coup de gueule également, parce que moi, j'en lance tout le temps. On m'entend, mais on ne m'écoute pas. Peut-être vous, on vous entendra.
Oui, un coup de gueule, si vous voulez. Enfin, on a déjà la MNH à... comme d'ailleurs tout le mouvement mutualiste hein, qui avait à l'époque, en début d'année, recueilli plus d'un million de signatures dans le pays quand même, de nombreuses personnes.
C'est la force.
C'est la force. Nous avons bien évidemment apporté notre contribution, à la fois à cette contestation, à cette pétition, et puis aussi dans les écrits et dans les prises de parole, parce que aujourd'hui, les mutualistes sont assujettis à 12,9% d'impôts, 5,9% pour la CMU. Bon, ça ne nous a pas trop choqué parce que c'était une preuve de solidarité. Mmh. Donc il faut savoir que la CMU en France est financée exclusivement par les organismes complémentaires. Exclusivement. Oui, ça, le grand public ne le sait peut-être pas. Et à cela s'est ajouté de manière injuste, je vais même jusqu'à dire aveugle, mais on en connaît l'explication, de manière aveugle, une taxe de 7% au motif que ça constitue, les contrats mutualistes constituent des contrats d'assurance, que nous sommes, principe libéral, dans une économie de marché, de biens et de services, et que à ce titre, nous devons payer des taxes. Alors, pour la seule MNH, c'est 80 millions d'euros par an. Je peux parler de la MGEN, puisque je connais bien son président. On est d'ailleurs dans un groupement qui s'appelle Istia et qui rassemble 6 millions de personnes. La MGEN, c'est plus de 200 millions. C'est à la taille de la MGEN. Mais cet argent, il faut quand même le souligner et le répéter sans cesse. Les capitaux des mutuelles ne sont pas des capitaux de sociétés anonymes. Ce sont des sommes qui sont versées par les adhérents. Elles sont gérées par ces adhérents, par ces mêmes adhérents. Donc il n'y a pas de capital, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas d'objet ni d'objectif lucratif. Nous avons, nous, vocation, et c'est notre obligation, à redistribuer. Chacun, vous connaissez le principe de la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.
Mais il est plus facile de prendre à des assurés qu'à des actionnaires.
Oui, ça fait un peu moins de bruit, on a trouvé cette mesure particulièrement injuste parce que ça a quand même produit des effets. On dit qu'en France, il y a 4 millions de personnes qui ne bénéficient d'aucune protection. On est plusieurs à l'observer. Ça a accentué la démutualisation et le renoncement aux soins. C'est-à-dire que beaucoup de personnes rognent sur leur budget, font des économies, et la santé en fait partie. C'est d'abord la cotisation mutuelle. Ensuite, on se fait pas soigner les dents, on s'achète plus de lunettes, on va plus voir le médecin. C'est le renoncement aux soins, faute de moyens. Et je trouve que dans un pays comme le nôtre, c'est un peu grave.
Oui,
je le dis comme vous.
Et ça me fait penser à une chose. Je l'ai dit à Christine Lagarde à l'époque, si vous ne faites rien pour résorber le surendettement, pour encadrer au moins les pratiques très, très brutales en matière de distribution de crédit et aveugle, on finira comme en 1848, c'est-à-dire à l'époque lorsque les jeunes se présentaient pour le service militaire, mais il n'y a plus de service militaire, on réformait les trois quarts. Et ça devenait dangereux. Et c'est là qu'on a mis les premières règles sociales en place. C'est juste avant 1848, on s'inquiétait, on se disait on n'a plus de chair à canon parce que les jeunes venaient, ils avaient les dents pas soignées, on faisait travailler les gamins à partir de 4 ans et on a mis en place les premières règles de droit social. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement plus de service militaire parce qu'on s'inquiéterait en voyant l'état parfois, d'où le rôle important de vos mutuelles en matière de santé. Et maintenant parlons juste une minute, la prévoyance, c'est le deuxième volet que vous vouliez aborder. On est bien d'accord. Vous avez 3 minutes.
Merci beaucoup, merci. Alors effectivement, depuis là aussi, c'est, pour répondre à des besoins et puis face aux carences des politiques publiques. Je ne fais pas de politique là, politicienne. Et notamment sur un sujet qui préoccupe tous les Français, dont on parle beaucoup. Ça devait être un des grands chantiers du précédent président de la République. Ça a été reporté sine die. Je parle de la dépendance.
Oui.
Donc, on s'est attaché à mettre en place une offre la plus solide, la plus solidaire, sur un socle de base, au début modeste, mais que nous essayons de faire progresser, de faire monter, en couvrant la validité, l'incapacité, le décès. Et puis lorsque, alors le décès jusqu'à 65 ans, et après le décès, cette garantie décès se transforme en rente pour couvrir la dépendance. Et nous avons même la perte d'autonomie, plus exactement. On n'aime pas trop ce terme de dépendance parce que c'est assez péjoratif. La perte d'autonomie. Là aussi, une petite parenthèse pour dire que nous sommes en train de développer des programmes de prévention, justement, pour retarder cette entrée en dépendance. On sait statistiquement qu'elle est très profonde, très importante, à partir de 80 ans, 82 ans. Donc, nous nous sommes fixés comme objectif, comme ambition, de retarder cette entrée en dépendance. Et nous couvrons, excusez-moi de parler un peu jargon technique, nous couvrons les situations de GIR 1, GIR 2, voire 3, 4.
Oui, c'est les degrés de dépendance qui servent aux classifications.
GIR 1 étant la dépendance complète. Et puis, on a couvert les deux principaux risques et nous avons maintenant étendu aux GIR 3 et 4. Avec des montants qui sont substantiels, c'était de l'ordre de 300 euros par mois pour les situations les plus par mois. Alors ça couvre pas tout, mais c'est déjà quand même
assez substantiel. Non, mais c'est une énorme avancée, c'est-à-dire un risque où l'État s'est fourvoyé avec le jour de repos supplémentaire ou de travail supplémentaire. C'est pas ça qui réglera le problème. Donc là encore, c'est les mutuelles qui prennent le taureau par les cornes et se substitue en fait à un véritable risque important qui pèse sur la nation et qui peut parfois, je vous rappelle, Président, conduire au surendettement certains ménages parce que la prise en charge des aînés, c'est maintenant un risque latent avec le vieillissement. Donc bravo d'être en avance.
C'est pas à vous que je vais vous en être convaincu, mais c'est important de le souligner. On voit bien tout le rôle, les limites du modèle libéral. et toute la force des organisations sociales et solidaires qui savent prendre ces sujets, les mettre en œuvre et répondre à des
dans
besoins.
Les faits.
Voilà.
Exact.
Et ça,
oui, non, ça c'est,
voilà,
c'est ce qui nous unit d'ailleurs.
C'est un acquis, la culture française bien sûr, mais c'est un acquis sociétal qu'il faut absolument préserver.
Ouais.
Et je ne fais pas de politique là.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.
Merci,
merci
Président.
Merci à vous.
À très bientôt.
Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.